Chapitre 27. Trois appels en absence et le double de SMS. Quatre posa sa tête sur l'oreiller, déjà fatigué avant même que la journée ne commence. Mitch était inquiet. Pas de nouvelles depuis jeudi soir, et il lui réclamait juste un message pour le rassurer, lui dire que tout allait bien et, s'il avait fait ou dit quelque chose d'offensant, il lui présentait ses excuses et souhaitait en parler. Tellement du Mitch tout craché. Ça ne faisait que trois jours, il abusait un peu. Il connaissait les règles de leur relation, chacun chez soi et pas de pression. Je suis parti comme une voleuse l'autre soir. À cause d'Annie Fowlings et de sa fille. Kat se redressa et la douleur sur son flanc gauche lui tira une grimace. Elle était rentrée tard, meurtrie, bousculée, et avait avalé plusieurs Tylenol pour atténuer ses maux. Elle se traîna jusqu'à la salle de bain du loft et s'étudia dans le miroir. Elle n'avait même pas eu le courage d'enfiler une chemise de nuit ou un pyjama. Une rougeur bleutée s'épanouissait de son épaule jusqu'à sa cuisse, n'attendant que d'éclore. « Je vais avoir un sacré hématome. » Elle regrettait presque d'avoir laissé filer Dave, le vagabond, même si elle savait où le trouver. Elle s'en était assurée avant de partir. Je n'avais pas le droit d'être sur cette propriété privée. Les flics auraient pu me faire perdre ma licence. Il n'y avait pas que ça. Une sensation plus diffuse, difficile à expliquer, de la méfiance ou un excès de prudence. Pas tant que je n'en sais pas plus. Ensuite, ce sera à la police de tout boucler. Mais elle avala deux Tylenol de plus, consciente qu'elle en prenait sûrement trop en si peu de temps, et passa sous la douche avant de s'habiller péniblement. Son poing droit la lançait. Elle n'était plus une habituée de la boxe. Elle commençait à se dérouiller, mais certains gestes étaient laborieux et elle s'en voulut d'être aussi fragile. Elle vit son téléphone sur le bar et s'interrogea. Fallait-il prévenir Annie Fowlings? Sa fille était partie avec Galvin Chinson, un homme qui, s'il fallait croire son ancienne voisine, n'avait rien de recommandable. Un petit truand, selon son casier. Rentrons au Kansas, Dorothy. Kat n'avait aucun doute. C'était Lena que le vagabond avait aperçue en compagnie de Chinson. Le prénom n'était pas le bon, mais c'était une référence au magicien d'Oz, c'était évident. Juste une façon de parler, de dire qu'il était temps de partir. De retourner au bercail? Là-dessus, Kat n'était pas plus avancée et elle devait en apprendre davantage sur Hutchinson. Elle avait certes eu un coup de chance que le SDF ait vu quelque chose, mais dans le fond, cela ne lui était pas très utile, sinon pour confirmer ce qu'elle suspectait déjà. Qui était ce Galvin Hutchinson derrière les apparences? Un escroc ou un manipulateur pervers? Quelle combine avait-il mise au point? Les images de la cuve griffée, de l'ongle et des insectes écrasés avaient peuplé la courte nuit de Kat. Elle ne parvenait pas à leur donner un sens. Elle refusait ce que la zone la plus sombre de son cerveau voulait lui suggérer. C'était pas possible, pas dans la réalité. Pourtant, Jarvis, l'ami de Dave, le vagabond, avait assisté à... À quoi au juste? Un clodo. Alcoolisé ou dément, quel crédit lui accorder? Et si c'était lui, les traces horribles dans ce bassin? Kat avait fait un cauchemar. Un groupe d'individus cagoulés qui la poussaient dans la cuve, menottée et nue. Tout au fond, le sol grouillait et elle hurlait, tandis qu'il l'aspergeait d'acide pour la faire fondre. Et la foule riait, d'une gorge unique, féroce et folle. Ce n'est pas possible. Et il valait mieux qu'elle s'en persuade. Sinon, elle ne pouvait poursuivre sans impliquer la police. Pas encore. Pas de cette manière. Trop compromettant et pas assez de preuves. Aucune même, sinon des rayures sur de l'acier et le témoignage indirect d'un alcoolique paranoïaque. Elle était parvenue à sortir par ses propres moyens du trou. Si d'autres, avant elle, s'en étaient arrachés le bout des doigts, c'est qu'ils étaient diminués physiquement, entravés, ou qu'on les empêchait de remonter. Abominable. Kat se fit un café et avala un laitage qui traînait dans son frigidaire. Son pragmatisme professionnel lui dictait de sortir, poursuivre son investigation autour de celui dont le rôle central se confirmait, Galvin Hutchinson. Annie Fowlings allait attendre. Ce qui se dessinait ne lui plairait pas si Kat parvenait à le prouver. Sa fille s'était fait la malle avec un homme et rien ne l'obligeait à donner signe de vie. N'oublie pas le chat pyrogravé, la phrase apocalyptique tatouée sur tout le dos et le SMS à sa mère mentionnant sa sœur morte. Ce n'était pas si évident. Un appel de détresse masqué, Léna était peut-être partie volontairement, avant de le regretter et de devoir rester sous la contrainte. Kat s'empara de sa besace et fonça au DMV de Brooklyn pour y être à l'ouverture. Sa licence lui permettait de consulter les dossiers du permis de conduire. Il fallait parfois convaincre l'employé au comptoir s'il n'avait pas l'habitude, lui montrer un extrait du Driver's Privacy Protection Act, et en particulier l'exception numéro 8, qui concernait sa profession. Mais Kat était rodée et ne sortait jamais sans une copie du texte. Galvin Hutchinson était enregistré. Un permis issu de l'État de New York et renouvelé 5 ans auparavant. Il mesurait 1,85 m et la photo montrait un homme émacié, blond, qui ne faisait pas ses 50 ans. Comme l'avait affirmé la voisine de palier, son regard était intense, troublant, magnétique. Ce mec aurait pu être pasteur et captiver des foules. N'était-ce pas d'une certaine manière ce qu'il était devenu? La dernière adresse renseignée se situait à Syracuse, dans le même état. Kat espérait qu'elle était encore valide. Dernière contravention, 1 an plus tôt pour excès de vitesse, à Carson Mills, dans le Kansas. Kat relut 2 fois le nom de la ville. Carson Mills. Kansas. Elle ne savait qu'en penser. Le rapprochement évident avec les mots prononcés par Galvin Hutchinson faisait résonner une alarme dans son esprit. Mais ça pouvait tout aussi bien être le fruit du hasard. Juste une expression. Et moi je fonce, tout doux. Prends du recul. Analyse. En ressortant du bâtiment austère de l'administration, Kat chaussa ses lunettes de soleil et traversa le boulevard pour s'acheter un autre café. Les douleurs sur le côté la gênaient, mais c'était largement supportable et elle n'avait pas le temps pour des examens. Elle était convaincue de n'avoir rien de brisé. Syracuse était bien à 5 heures de voiture si elle ne traînait pas. Elle en aurait pour la journée, sans compter le temps des vérifications sur place. Ce n'était pas rentable. Elle appela un de ses confrères, privé à Manhattan, un vieux de la vieille qui avait bien connu Big Tony et qui disposait d'un réseau important sur la côte Est. Elle lui demanda le contact d'une personne de confiance à Syracuse, qu'elle missionna dans la foulée pour aller vérifier l'adresse de Galvin Hutchinson sur place. Cela allait lui coûter quelques billets, mais c'était préférable à un aller-retour interminable sur un terrain qui n'était pas le sien de surcroît. Son café à la main, Kat retourna dans la rue pour consulter son carnet de notes. Lorsqu'elle avait parcouru la base de données Pacer pendant le week-end, cette dernière lui avait craché plusieurs affaires dans lesquelles Galvin Hutchinson était impliqué. Sur les 3 tribunaux concernés, un seul publiait ses archives sur Internet. Celui-là, Kat l'avait déjà détaillé, ce qui signifiait que les 2 autres restaient consultables sur place maintenant qu'ils étaient ouverts. Kat sauta dans le métro et se rendit au premier, sur Manhattan. Elle y passa le reste de la matinée, le nez dans les dossiers avec l'aide de l'employé des archives, pour finalement peu de résultats probants. Des plaintes pour intimidation déposées contre Hutchinson par la victime d'un accident de la route qu'il avait causé avec suspicion d'ivresse. Il avait été condamné pour la totale. Kat essaya d'en tirer un maximum d'informations réutilisables, mais ne déboucha sur rien. Elle avala des sashimi dans un boui-boui en face, et pendant qu'elle terminait son repas, une autre idée lui vint en voyant une pub pour de l'immobilier à la télé du restaurant. Il s'était passé quelque chose dans cet entrepôt du trou. Plusieurs personnes. Peut-être une horreur. Et s'ils avaient pu commettre leurs actes en toute tranquillité, c'était parce qu'ils savaient qu'on ne viendrait pas les déranger. La clôture était neuve, du moins de l'année. Ceux qui venaient là se sentaient en sécurité. Les bougies. La fosse où au moins une personne s'était arraché les ongles en voulant remonter. Parce qu'ils étaient chez eux. Kat devait s'assurer du nom du propriétaire. Assez ironiquement, les bureaux du fisc du Queens se trouvaient être assez proches du quartier du Trou. Kat y arriva en début d'après-midi et avec un peu de malice récupéra rapidement dans les fichiers ouverts à la consultation publique le numéro de parcelle de l'entrepôt. Les services administratifs aimant entretenir une certaine proximité consanguine qui les rassurait, comme aimait à le répéter oncle Tony, Kat n'eut pas bien loin à aller, jusqu'à la cour du Queens où étaient enregistrées toutes les transactions immobilières 2 blocs plus à l'est. La privée avait le nez dans les tiroirs des armoires numérotées, à la recherche des documents liés à la parcelle, lorsque son portable sonna. Songeant que c'était peut-être son contact de Syracuse qui rappelait, elle décrocha sans regarder.
« Au moins tu es vivante »,
dit une voix masculine.
« Oh non, pas maintenant.
C'est pas le moment, Mitch.
Ce n'est jamais le moment. Sauf lorsque toi, tu le décides.
Tu vas vraiment me faire une scène, là, tout de suite?
J'aimerais juste un peu plus de considération. On va fêter nos 6 ans cet été, tu sais. Et je n'ai même pas de brosse à dents chez toi.
Kat sentit l'énervement poindre. Mitch ne lui laissa pas l'occasion de répliquer, trop heureux d'enfin pouvoir cracher ce qu'il avait sur le cœur.
Tu pars en pleine nuit. Tu ne donnes plus signe de vie pendant 3 jours ensuite. Je me demande seulement où tout cela nous mène, Kat. Tu comprends?
Nulle part, Mitch. Et c'était justement le deal de départ. Pas de complications, d'attentes qui ne peuvent être satisfaites, de fausses illusions.
Eh bien, je crois que moi j'en ai, des attentes et des illusions. Et tant pis si elles doivent être déçues en cours de route.
Écoute, je peux pas, là. Est-ce qu'on peut dîner ensemble demain soir?
Et aborder les vrais sujets comme deux adultes? Tu ne vas pas te défiler encore en ouvrant ton trench sur de la lingerie coquine. Pas cette fois, tu m'entends? Je veux qu'on échange. Pas juste une partie de baise, un peu de compagnie et terminé.
Kat jura qu'elle serait à lui pour ce qu'il voulait, tout plutôt que de poursuivre cette conversation dans une salle d'archives, et elle raccrocha irritée. Elle se plongea dans son jeu de piste pour ne plus y penser. 10 minutes plus tard, elle parvint à extraire une copie du dernier acte de vente de la parcelle. Il datait de 15 mois plus tôt, et le nouveau propriétaire était une société privée. Kat ralentit dans le hall du bâtiment en lisant la suite du document. Le siège était basé à Carson Mills, dans le Kansas.